réseaux sociaux. C'est une Bible. Alors pourquoi j'ai mis cette image? Parce qu'en fait, on est formé comme les autres. Et même, c'est éliminatoire de pas être formé sur tous les plans. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ce rapport avec la violence pour aussi témoigner d'autres choses dans ce monde. Et le fait de faire tous les entraînements avec eux et de valider toutes les choses avec eux, ça permet de dire, ben moi, je sais ce que c'est aussi. Et pourtant, voilà les valeurs que je pose et voilà comment je vous soutiens. Donc, nous aussi, on met les mains dans le cambouis, si je puis dire. Et puis, on peut témoigner avec eux et faire, comme j'ai dit, de belles rencontres, de beaux partages. On se teste, on fait des blagues. Les militaires, ils aiment bien nous secouer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour savoir si on peut lui faire confiance au padré, s'il est sympa, s'il va pas nous embêter. Et il y a vraiment des belles rencontres. Test de la confiance, de la fidélité. Si on t'appelle, est-ce que tu vas répondre présent? Voilà. Est-ce que tu vas nous montrer la grâce ou pas? Ça, c'est quelque chose d'important. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est paradoxal, mais c'est vrai, on fait tous les entraînements avec eux. On est chronométré, on fait même des stages de commandement. On nous donne des hommes à commander et à amener d'un point A à un point B. Et on nous teste, nous, aumôniers, sur la capacité à commander, juste pour connaître un petit peu ce que les chefs traversent. Donc c'est très intéressant aussi de se retrouver dans la peau du chef, de donner des ordres. Voilà, c'est un peu paradoxal parce que nous, on est hors hiérarchie. Mais c'est vraiment pour nous dire, voilà, prenez une autre carrure, prenez une autre empreinte, un autre vernis, et allez-y, quoi. Donc il y a des super temps qui sont vécus dans ces moments-là. Mais entre nous, j'aime pas faire ça. Mais c'est important de le faire pour savoir ce que c'est. Mais j'aime pas ensuite aller voir quelqu'un pour leur, entre guillemets, leur crier dessus, pour leur dire ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'évidemment, dans ces stages de commandement, les hommes qu'on nous donne, ils ont tous des directives, c'est de ne pas m'écouter, c'est d'être des tirs au flanc, de faire tout ce qu'on, de faire l'inverse de ce qu'on leur dit. Donc évidemment, nous, on est challengé sur la capacité à mener des gens quelque part. Et puis il y a des gens qui nous observent pour savoir si on est bien le chef ou pas. En disant, bah, tiens, là, vous avez été chef, et puis là, vous n'avez pas été. Bon, on est aumônier, c'est pas bien grave. Mais juste maintenant, quand vous allez retourner dans vos unités, que vous rencontrez les chefs, réfléchissez pour les soutenir eux aussi dans leur commandement, de dire, c'est pas si évident que ça. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que c'est très riche ce qu'on fait dans l'aumônerie militaire. Et puis il y a toujours cette question qui nous est posée. En tout cas, c'est la question qu'on me pose. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une question. Dans une société où la laïcité, c'est un devoir, on se dit, il y a quelqu'un qui se balade, qui est hors hiérarchie, toutes les portes lui sont ouvertes, du militaire du rang jusqu'au général. Qu'est-ce qu'il fait là? Et vous avez quitté le Sud, vous avez quitté votre famille, votre église, vous venez là, vous allez partir en Afrique avec des parachutistes. Mais ça les intrigue, ça les intrigue vraiment. Mais on peut leur dire, sans avoir de problème, on peut leur dire que Dieu nous a envoyés là. C'est ça qui est bien. On est peut-être le seul qui peut dire ça sans passer pour un fou, puisque voilà, on est aussi rémunéré pour représenter le culte, enfin moi, le culte protestant dans les troupes. Donc voilà, c'est très intéressant parce que dans cette société laïque, avoir quelqu'un qui est là pour le soutien spirituel, ça les intrigue. On ne rentre pas dans les cases. On a une liberté qui les interpelle. Voilà. Donc moi, j'en profite. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de leur dire, ben vous voyez, nous on n'est pas dans le donnant-donnant, on n'est pas dans le rendement, on est dans autre chose. On est dans les affaires de Dieu, comme ils disent, et on est là pour vous soutenir. Donc c'est très intéressant à vivre. Et en même temps, comme on a l'uniforme et que tout le monde voit qu'on est aumônier, qu'on porte la croix sur nous, ben on nous renvoie tout de suite tout ce que les gens pensent de la religion, de la foi. Donc ça, j'avais déjà dit, mais c'est très intéressant. Quand on arrive à la cantine, qu'il y a 200-300 personnes et qu'on ouvre la porte, que tout le monde se regarde pour nous voir, enfin, pour me voir, parce que je suis aumônier, tout le monde va me renvoyer ce que je suis. Voilà. Avec mes sourires ou avec mes découragements, tout ça. Donc, c'est très intéressant de vivre ça avec eux. Voilà. Il y a plein de belles rencontres, en tout cas, et de belles discussions. Je suis de plus en plus invité à discuter avec des gens qui posent des questions. Voilà. Et plus je vais avec eux sur le terrain, plus ils viennent vers moi pour se sentir à l'aise, pour me dire, mais voilà, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Pourquoi vous avez d'autres valeurs, en fait? Donc, voilà. Encore merci pour toutes vos prières et votre soutien, parce que je sais que dans tout ce que je vis, c'est très important de se dire, voilà, je sais que je suis soutenu et je sais que ça porte quelque chose de spirituel. Voilà. Et pour que vous le sachiez, il y a vraiment des gens qui se posent des questions et il y a des gens qui cheminent aussi dans les régiments. Et que ce soit le militaire du rang ou jusqu'au général, il y a vraiment des questions qui nous sont posées, quoi. Donc voilà, c'est super. J'arrête là pour les nouvelles. Je vais parler ce matin d'un passage qui sera la suite de mon message sur Jésus et les disciples d'Emmaüs. Alors, si vous ne l'avez pas entendu, ce n'est pas grave, parce que je vais faire un parallèle un petit peu ce matin. Mais je vais juste le resituer. Vous savez, c'est le passage en Luc 24, où les disciples sont sur le chemin d'Emmaüs. Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais eux, ils ne pensent pas que Jésus est ressuscité. Et Jésus va à leur rencontre, mais ils ne le reconnaissent pas. Vous connaissez ce passage ? Alors, les disciples expliquent à Jésus que Jésus n'est pas ressuscité et qu'il les a abandonnés. Donc, on a cette scène un peu presque ironique. Et puis, au moment où il va fractionner le pain, Jésus disparaît. Et puis là, ils vont reconnaître que c'était bien lui, avec toutes les implications que ça pose derrière, que j'explique dans ce message. Mais si vous ne l'avez pas entendu, ce n'est pas grave, parce que ce matin, je voudrais apporter un autre éclairage sur la fraction du pain, le sacrifice, parce qu'il y a un passage de l'Ancien Testament qui va nous apporter un autre éclairage, qui va compléter un petit peu ça. Donc, vous pouvez écouter ce message après ou avant, ce n'est pas important, vous, normalement, vous suivrez. Et ce passage, il se trouve dans le livre des juges, au chapitre 6. Alors le livre des juges, c'est après la sortie d'Égypte. Les Hébreux entrent en terre promise, mais c'est avant le temps des rois. Il y a les rois qui vont se succéder. Et ça c'était sur Emmaüs. Les rois vont se succéder, mais avant les rois, il y aura des petits chefs qu'on appelle des juges qui vont régner plus ou moins sur le peuple. Et pour info, le temps des juges, c'est une période assez noire, il y a pas mal d'idolâtrie. Il y a des périodes plus brillantes, mais on retombe toujours dans ce système d'idoles qui est assez compliqué. Et c'est dans cette période-là que je vais prendre le texte dans le livre des juges au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Et vous allez voir le lien que je ferai ensuite avec Emmaüs. Gédéon chapitre 6, et je vais prendre à partir du verset 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ça peut pas être plus, c'est simple le contexte. Hein. Donc, le peuple ne fait pas ce que Dieu veut, et du coup, l'ennemi vient pour les asservir. On lit la suite. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël rien, ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Donc on est vraiment dans le contexte typique des juges. Le peuple désobéit, l'ennemi vient, attaque, et puis que fait le peuple? Il tire la sonnette d'alarme, il essaye d'appeler Dieu, d'autant que l'ennemi va détruire les ressources du pays, donc c'est sur le long terme, hein, c'est stratégique. Alors Dieu répond à ça. Dieu répond à ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel leur envoya un prophète. Et leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alors, Dieu rappelle qu'il est le Dieu des miracles. Il rappelle l'histoire, en fait. Il rappelle les Écritures. C'est ça qu'il est en train de faire. Je suis bien votre Dieu qui vous est délivré d'Égypte. Je suis puissant, mais vous ne m'avez pas écouté. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est commencez pas à me mettre ça sur le dos. Hein ? Parce que là, vous tirez la sonnette d'alarme, vous pensez que ce n'est pas très juste ce qui vous arrive, mais quelque part, ce n'est que justice. Vous ne m'avez pas écouté. Donc, je suis bien le Dieu des miracles, je suis le Dieu de vos Écritures, je suis le Dieu d'Israël qui vous a délivré d'Égypte, mais je ne suis pas celui qui veut ça. Voilà, attention, qu'on fasse bien la part des choses, je suis de votre côté. Et c'est là où commence l'histoire avec Gédéon. Mais Gédéon, il est dur de la feuille. C'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu va avoir du travail avec lui. Et voilà ce qui se passe. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Super. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Non, il vient de t'expliquer que vous n'avez pas écouté et que c'est pour ça. Et ce qui est ironique dans ce passage, c'est que Dieu vient de lui dire: Je suis avec toi. Il vient de lui expliquer: Je suis le Dieu des miracles, je suis de votre côté. Mais Gédéon est en train d'expliquer à Dieu lui-même qu'il n'est pas là, qu'il les a abandonnés. Alors je pose ça parce que ce qui est intéressant, c'est que l'ange de l'Éternel, ce n'est autre que Dieu, on va le voir dans ce passage. Gédéon explique à Dieu qu'il n'est pas là. Il lui demande où il est. Exactement sur le chemin d'Emmaüs, les disciples expliquent à Jésus qu'il n'est pas là. Pourtant, Jésus dira: Je suis puissant en œuvre. C'est même eux qui vont dire à Jésus: Le Messie était puissant en œuvre, mais il nous a abandonnés. Mais il lui explique à Jésus. Comme Gédéon explique à Dieu, Dieu vient de dire: Je suis puissant, je suis avec vous. Et Gédéon, il lui dit quoi? Mais il n'est pas là. Et il est où le Dieu puissant? Et en plus, c'est de sa faute. Donc on retrouve un peu la même configuration. On peut se dire, bon, c'est un hasard. Mais je trouve intéressant parce qu'il y a un mot très fort dans la bouche de Gédéon, c'est le mot abandon. Tu nous laisses tomber. Tu es parti. Et alors que Dieu lui-même lui dit: Je suis là, coucou, je suis le Dieu puissant, il lui dit: Mais non, où es-tu? Ça n'a aucun sens. Cette discussion n'a aucun sens. En tout cas, elle est ironique, mais c'est comme sur le chemin d'Emmaüs quand les disciples disent: Explique à Jésus qu'il n'est pas là. Pourtant, Jésus leur rappelle les Écritures. Et tout comme Dieu, dans ce passage, dit: Je suis bien le Dieu qui vous a délivré d'Égypte, qui rappelle les Écritures lui aussi. Il dit: Je suis le Dieu des miracles. Mais où est-il, le Dieu des miracles? Coucou, c'est moi, je me montre à toi. Non, c'est pas toi, tu n'es pas là. Et c'est vraiment un paradoxe, c'est ce paradoxe-là. Et si on va plus loin, on va voir comment Dieu va résoudre cette affaire. Et vous allez voir les autres parallèles avec le chapitre 24 de Luc, que je vous invite à relire à l'occasion. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, donc là c'est plus l'ange, c'est l'Éternel, on comprend que Dieu parle, hein. Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Dieu lui dit, je t'envoie. Et il lui dit, avec quoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'il lui parle encore. Donc c'est ironique. Malgré lui. Mais on voit l'aveuglement de Gédéon qui explique à Dieu, mais avec quoi je vais les délivrer? Exactement quand les disciples d'Emmaüs expliquent à Jésus, mais en fait tu n'es pas là. On t'explique. Il y avait un Messie qui était puissant, mais qui n'est pas là. Mais Dieu, il est sympa quand même. Il est sympa. Il ne va pas se formaliser. C'est ça qui m'interpelle avec Dieu. L'Éternel répondit, Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Je serai avec toi. Qui peut dire ça pour vaincre les Madianites? C'est que Dieu. Mais c'est mal connaître Gédéon qui va rajouter une couche. Gédéon lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Si tu es Dieu, prouve-le. C'est gonflé quand même, hein? Dieu lui dit, Je suis le Dieu des miracles, je vous ai délivré d'Égypte, c'est moi, je t'envoie, je suis avec toi. Gédéon lui dit, Si c'est toi, prouve-le. Et encore une fois, Dieu ne se formalise pas et il va rentrer dans son processus. Ne t'éloigne pas, donc Gédéon dit à Dieu, Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Donc il dit à Dieu, ne bouge pas d'ici, je reviens. Et donc, il va. Ce que je trouve intéressant, c'est la réponse de Dieu qui lui dit. La réponse de Dieu qui lui dit ok, j'attends, je t'attends, je bouge pas. Je bouge pas de là. C'est très curieux. Hein. Gédéon se dit, si c'est vraiment Dieu, ne bouge pas d'ici, je reviens. Et Gédéon, Dieu lui répond en fait, ok, je bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas de là où je suis. Je suis Dieu, je suis partout, mais là, tu as du mal, tu as du mal avec le concept du Dieu infini et omniprésent. Donc, ok, je suis un ange, mais je suis Dieu, je suis devant toi, c'est l'Éternel qui te parle. Je ne bougerai pas de ma place, je t'attends, parce qu'il sait très bien que dans Gédéon, il y a un cœur abandonné, il y a un cœur meurtri. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il lui dit, je t'attends, je bouge pas. Et maintenant, soyez très attentifs à ce qui va se passer dans ce passage. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Donc le jus comprenait le sang. Hein. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. Ça, c'est un petit peu la mode à Élie. Hein. C'est-à-dire on met quelque chose pour que ce soit encore plus dur que le sacrifice prenne. On met du jus par-dessus. Donc Dieu rentre dans le processus de Gédéon. Il dit, ok, bon, mais si tu dois faire ta petite tambouille pour croire que c'est moi, fais-le. Ok, c'est pas Dieu qui lui dit fais le sacrifice. Hein. C'est Gédéon qui a besoin de le faire. Il a besoin d'un signe sur lequel se rattacher pour comprendre qui est devant lui. Mais il est quand même en train de faire un processus pour que Dieu prouve que c'est bien lui. Hein. Dieu doit prouver que c'est lui. Et on regarde la suite. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main. Et en toucha la viande et les pains sans levain, alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Ah, tu voulais une preuve ? Tu l'as. Car ceci est surnaturel. Donc l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel, comme il est appelé dans ce passage, a fait embraser le sacrifice, donc c'est bien Dieu. Et regardez la suite. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Il disparaît. On se dit, tiens, ça nous fait penser à quelque chose. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, ça y est, il a compris. Il a compris. L'ange, l'Éternel a disparu, comme sur le chemin d'Emmaüs. Et là, ils ont une révélation. Avec toujours l'idée d'un sacrifice au milieu. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ces passages. C'est les deux seuls passages où ça se passe dans la Bible. C'est Jésus sur le chemin d'Emmaüs et Gédéon. Dieu est là, devant eux, disparaît, et là, il comprend. Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Ça veut dire, je sais que c'est toi, Dieu. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Parce que à l'époque, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans faire des sacrifices avant. Il y avait tout un protocole. Mais Dieu est sorti du système. Le temps qu'ils comprennent que c'était lui, ensuite il re-rentre dans le système, il redisparaît. Et c'est pour ça que je relis le passage des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Donc Jésus rompt le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Je pense que, ça c'est personnel, que pendant que Gédéon faisait sa tambouille, ça devait cogiter dans sa tête. Si c'est Dieu qui me parle, je suis en train de lui demander de montrer sa carte d'identité quand même, hein, c'est particulier. Mais vous avez la même configuration, l'ange disparaît, et là il a la révélation que Dieu est devant lui. Il prend tellement la mesure qu'il pense mourir parce qu'il n'a pas respecté les protocoles du sacrifice pour s'approcher de la présence de Dieu. On ne pouvait pas faire ça. Mais Dieu est sorti du système sacrificiel juste le temps d'aller le rejoindre. Après, il disparaît, il dit non, je re-rentre dans le système que j'ai mis en place. Donc que ce soit pour les disciples d'Emmaüs ou pour ce passage de Gédéon, il y a toujours un sacrifice dans les deux cas. On représente quelque chose. Et l'enjeu, c'est que Dieu est là. Et Gédéon voit que Dieu va l'accompagner hors de son système sacrificiel pour ensuite redisparaître et revenir dans ce système-là. C'est une façon de dire, s'il y a vraiment un sacrifice de l'Éternel qui s'est passé devant toi, Gédéon, tu dois croire que je suis là. Comme quand Jésus donne la fraction du pain aux disciples, si vous pensez que ça représente mon corps, vous devez croire que je suis là. Sauf que ce qui est intéressant dans ce passage de l'Ancien Testament, c'est que ça nous apporte un éclairage de plus, parce que la fraction du pain, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient vraiment d'un système sacrificiel qui arrive à son aboutissement. C'est pour ça que quand je suis tombé sur ce passage, en plus, vraiment par hasard, avec un ami, on discutait, du coup, je dis, c'est pas possible. Il nous fait deux coups deux fois de Dieu qui disparaît et puis il y a une révélation. Ce que ça nous rappelle, c'est que dans l'Ancien Testament, on ne s'approchait pas de Dieu comme ça. Il y avait des sacrifices. Ce que j'appelle un mur de sang, c'est-à-dire qu'il fallait forcément un sacrifice pour s'approcher de Dieu, se purifier et être dans sa présence. Et ces sacrifices, c'était le pardon, la purification. Et surtout, ça nous rappelle qu'il fallait toujours un sacrifice pour s'approcher de Dieu. C'était ça qu'il y avait en tête. On ne pouvait pas s'approcher de lui comme ça. On ne pouvait pas demander une audience à Dieu comme ça. Il y avait un sacrifice. Et la fraction du pain qu'on prend, qui représente le sacrifice de Jésus, nous le rappelle ça en fait. C'est l'aboutissement de siècles de sacrifices. Il a bien fallu un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Et quelque part, ne l'oubliez pas. Quand vous accédez à la présence de Dieu, il y a des gens avant vous qui étaient dans un autre système. Et vous pouvez vous aussi en faire mémoire de ça, en vous disant, vous accédez au Dieu saint, et ça symbolise quelque chose. On ne dit pas qu'il y a des protocoles qui nous éloignent de lui, mais c'est plutôt de la reconnaissance. Il est là dans ce bout de pain, il se donne comme ça, mais c'est aussi l'aboutissement de tout un système qui arrive à un accomplissement parfait, où quand il se donne lui-même, là on a tout. J'aimerais revenir à la comparaison entre Gédéon et le passage de disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est que dans les deux cas, pour arriver au centre de mon message, on est dans le cas de figure où des personnes doutent que Dieu est présent. Les disciples pensent que Jésus est mort. Gédéon pense que Dieu les a abandonnés. C'est la même configuration. C'est le même problème qu'ils doivent régler. C'est le même souci. Dieu a en face de lui des gens qui le cherchent, qui lui parlent, mais qui ne le reconnaissent pas. Donc c'est la même configuration. Dans les deux cas, il y aura soit un sacrifice avec Gédéon, soit le symbole d'un sacrifice avec la fraction du pain qui va amener une révélation. Dans les deux cas, on a des gens qui sont perdus et qui ne trouvent plus Dieu, même s'il est devant eux. Dans les deux cas, c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller voir l'autre et de lui parler directement pour lui expliquer qu'il est là. Dans les deux cas, Dieu prend l'initiative d'aller les rencontrer pour régler ce problème, pour régler cet aveuglement. Dieu parle à Gédéon, Gédéon parle avec lui, mais il lui demande, ben, il ne le reconnaît pas, et puis les disciples, c'est pareil. Mais c'est dans un sacrifice ou dans le symbole d'un sacrifice qu'il réalise sa présence. Et je trouve qu'il y a une constante, ah bon, la constante évidente aussi, c'est que dans les deux cas, Dieu va disparaître de la scène et il y a une révélation qui vient. Et je pense que le passage de Gédéon nous apporte un éclairage qui est important. Et je vais répéter, je radote, mais je fais exprès. Dans les deux cas, on pense que Dieu nous a abandonnés. Dans les deux cas, on pense qu'il n'est pas là. On pense qu'il n'a pas tenu sa promesse. Même si Dieu dit coucou, c'est moi. Même s'il se montre, y a-t-il un plus grand miracle que de voir Dieu devant soi? Ça ne suffit pas, donc c'est pour dire qu'ils sont aveuglés. Et il y a un enjeu prédominant dans ces deux histoires. Ce qui prédomine dans le sacrifice de Gédéon ou dans la fraction du pain avec les disciples, c'est qu'on a conscience de la présence de Dieu. On pense que Dieu est parti, qu'il nous a abandonnés. Mais que ce soit pour Gédéon ou les disciples d'Emmaüs, l'enjeu prédominant, c'est la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça. aussi mystérieux évidemment, mais c'est aussi simple que ça. Dans les deux cas, ils se disent Dieu est là. C'est la conclusion qu'ils vont en avoir. La fraction du pain représente et devrait faire écho en nous de la présence de Dieu. Si on fractionne le pain, Dieu est là. Comme pour Gédéon, si le sacrifice s'embrase, Dieu est là. Et l'éclairage que ça nous apporte, c'est que dans l'Ancien Testament, les sacrifices garantissaient l'accès à la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis que la fraction du pain, elle ne vient pas de nulle part. Les sacrifices de l'Ancien Testament garantissaient la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on s'approchait de lui. Et quand on arrêtait de faire des sacrifices en sa faveur, on s'éloignait. Ou Dieu disait, bon, bah, je vais faire un tour. Mais c'était ça, cette idée. Et l'idée de la fraction du pain, elle s'enracine dans le judaïsme, dans les sacrifices, pour dire, là, il y a cette idée de s'approcher de Dieu, d'être dans sa présence. Ça se faisait autrement avant, mais maintenant, on a un autre sacrifice dans les mains qui est plus puissant. Et comme je l'ai dit, Gédéon réalise tellement que l'enjeu de son sacrifice, c'est la présence de Dieu, qu'il a peur. Parce qu'avant, il y avait tout un autre système. Mais Dieu lui dit, sois dans la paix. Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir. Et il y a un autre enjeu que je trouve dans la fraction du pain et dans ce sacrifice. C'est ce que va faire Gédéon une fois qu'il a compris que Dieu était là. Il va faire quelque chose qui est très caractéristique qu'on retrouve aussi dans la fraction du pain. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de... Voilà. Dieu et la paix. Et si vous regardez dans le passage de la fraction du pain, quand Jésus réapparaît, alors il proclame la paix sur eux. La conséquence de cette prise de conscience que Dieu est là, pour Gédéon, c'est son initiative encore une fois, c'est la même que ce que Jésus va dire aux disciples, vous êtes dans la paix. Si vous avez pris conscience que je suis parmi vous, vous êtes dans la paix. L'enjeu prédominant pour Gédéon, pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est de comprendre que Dieu est là et de pouvoir dire comme Gédéon, Dieu est la paix. C'est pourtant Gédéon, dans son contexte, il a toujours ses ennemis. Il y a toujours les Madianites, il y a toujours la guerre. Ils ont perdu cette guerre et il est capable de proclamer ça. C'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est face à une guerre qui semble perdue. Dieu lui fait prendre conscience qu'il est présent et la conséquence directe, c'est je suis dans la paix. Quelles que soient nos épreuves, quels que soient nos défis, si on prend conscience que Dieu est là, il y a la paix qui vient. Alors qu'est-ce que ça change pour Gédéon? Eh bien, une fois qu'il sait que Dieu est là, il va partir en guerre contre les Madianites. Il va continuer de demander à Dieu des preuves que c'est lui. On connaît l'histoire. Il va commencer à faire des, il continue à faire des tests avec Dieu. Si c'est toi, fais ci, fais ça. Dieu va continuer parce qu'il est sincère. Dieu va continuer parce qu'il est sincère et qu'il le cherche vraiment. Et pour l'histoire, Gédéon va réunir des troupes pour combattre les Madianites. Et Dieu va lui dire, maintenant que tu as compris que je suis là, maintenant que tu es dans la paix, tu vas renvoyer tes hommes et on va le faire à ma manière. Pour que ce soit ma gloire. Vous voyez tout le cheminement qu'il va faire avec lui. Dans tous les défis qu'on a, il y a cette prédominance, cet enjeu prédominant de la présence de Dieu et de la paix que ça engendre dans nos cœurs pour tous les domaines de nos vies. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il y avait les sacrifices dans l'Ancien Testament. On cherchait cette présence et avoir cette paix que Dieu est là. Et la fraction du pain qui représente le sacrifice de Jésus, c'est le même enjeu prédominant. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Est-ce que vous croyez qu'il est là dans chaque domaine de vos vies? Si c'est le cas, ça devrait réformer notre regard sur tous les domaines, sur tous les regards qu'on porte. Si Dieu est là, ça fait une sacrée différence. Mais dans les deux cas, tout est parti d'un sacrifice. Et si j'ai pris ce passage de Gédéon ce matin, c'est pour dire qu'il a fallu un sacrifice pour avoir ça. Ça a coûté quelque chose quand même. Nous, on n'a rien payé, mais ça a quand même coûté quelque chose à quelqu'un. Un père qui donne son fils et qui nous garantit l'accès à sa présence et qui nous donne du pain pour nous souvenir qu'il est présent. Et la conséquence, c'est que Gédéon va avoir plein de zèle et qu'il va faire la guerre et puis qu'il va gagner. Mais tout est parti d'un sacrifice et de la présence de Dieu surnaturelle, de cette prise de conscience. Je crois que dans ces passages, Dieu veut nous dire « mais je suis là ». En fait, des fois, le déclenchement des choses, c'est « est-ce que tu as conscience que dans ce domaine de ta vie, je suis pleinement concerné, impliqué ?» Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne seras pas dans la paix. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les sacrifices continuaient à inspirer la confiance en Dieu et la conscience qu'en fait, il est là, puisque les sacrifices montent à lui, il est bien là. Et cette fraction du pain nous rappelle que c'est Dieu qui se donne à nous et qu'il est présent. Et c'est pour ça que même dans cette fraction du pain, Jésus dira « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Parce que c'est un pain quotidien dans le sens où tous les jours on a besoin de prendre conscience que dans la journée que je vais vivre, ce qui va être prédominant, c'est de la conscience que Dieu est concerné et qu'il est totalement présent dans ma vie. Je ne vais pas passer la même journée si je n'ai pas conscience que Dieu n'est pas présent dans ma vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Et quand il nous dit « donne-nous ce pain de ce jour, quotidien », c'est pour nous dire tous les jours, rappelez-vous que ce symbole du sacrifice, c'est pour vous dire « je suis là tous les jours de votre vie, présent, concerné, impliqué dans toutes vos activités. Ayez cette conscience à l'esprit. » Et si vous vous souvenez qu'il y a eu un sacrifice pour ça, c'est la reconnaissance, c'est l'admiration pour notre Dieu, c'est l'adoration. C'est extraordinaire. Et je trouve beau parce que ce sacrifice que Gédéon vit, c'est pas moins beau. C'est magnifique. Dieu montre qu'il est présent. Il montre qu'il est concerné par son problème et il va l'aider à guérir. Comment ? Par sa présence. Tout commence là. Il dit là, tu t'es perdu, tu penses que c'est moi qui t'envoie du grabuge dans ta vie, tu penses que les Madianites, c'est moi qui... Non, c'est vous. Maintenant, par rapport à ça, à ce contexte particulier de juge, évidemment, tu as besoin de prendre conscience que je suis présent. Alors je radote, mais c'est pour vraiment que ça rentre dans nos cœurs. Chaque domaine de notre vie, moi il y a des domaines où des fois j'oublie qu'il est là. Et puis quand je me dis, en fait il est pleinement impliqué, ça fait une belle différence. Mais quand je le perds en chemin, j'y reviens. Alors, je ne fais pas comme Gédéon, je ne vais pas faire un sacrifice comme ça, mais encore une fois la fraction du pain peut nous aider à nous ressaisir de ce sacrifice, de ce que ça a coûté, de cette présence-là. Alors évidemment, comme je l'ai dit, Dieu ne se résume pas à un bout de pain ou un sacrifice. Sinon, si on pouvait, je crois que c'est Timothée Keller qui dit « si on peut toucher Dieu, on en fait une idole ». Voilà. On ne peut pas le réduire à ça, mais l'enjeu prédominant dans la fraction du pain, dans tout ce qu'on fait pour lui, c'est sa présence. Et ce que je trouve magnifique dans ce passage de Gédéon, c'est que Dieu sort du système sacrificiel le temps d'aller le récupérer et de le prendre. Et je crois qu'il y a des domaines de nos vies, si on n'a pas conscience que Dieu est là, il va prendre lui l'initiative d'aller nous chercher et de nous ramener, ce qu'on voit aussi dans tous les sozos. La différence entre le passage de Gédéon et les disciples d'Emmaüs, c'est que le pain qu'on a à la fraction du pain, représente un sacrifice beaucoup plus puissant. Le sacrifice que ça représente pour nos vies est beaucoup plus puissant parce qu'il représente nos victoires. Il nous rappelle que toutes nos craintes, finalement, elles viennent aussi du fait qu'on oublie que Dieu est là, tout part de là, et tout se résume là. Mais ça nous garantit sa présence. Ça nous rappelle que Dieu a livré l'ennemi en spectacle. Il a battu. C'est ça, le sacrifice. Et qu'il est présent et qu'il gagne. et qui gagne pour tous les domaines de nos vies. L'enjeu prédominant quand on communie ensemble à la fraction du pain, c'est la présence de Dieu qui est là. Il est là tout le temps, bien évidemment, mais dans ce temps de communion d'église, dans ce temps où on prend ce pain-là, pas de façon religieuse, mais par la foi que ça va nous demander de se dire, en fait, il est là, j'ai pris conscience, on va pouvoir faire comme Gédéon et se dire, l'Éternel est la paix. Dieu est la paix. Je suis en paix, je suis tranquille. Alors j'aimerais prendre un temps de prière pour que Dieu, pour qu'on reprenne conscience dans tous les domaines de notre vie, que l'Éternel est la paix et qu'il est pleinement impliqué dans tous les domaines de notre vie, qu'on puisse repartir de là différemment. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever. Ouais, Seigneur, on a tous des défis, on a tous de la fatigue, on a tous des combats à mener, on a tous des choses à porter, on a tous des projets à accomplir, on a tous du travail à accomplir. Mais ce matin, tu nous invites à nous réapproprier ta présence pour tous les domaines de notre vie et à proclamer que tu es la paix, que tu pose dans nos cœurs, dans nos pensées, ta paix surnaturelle. Et Saint-Esprit, je te demande de venir sur nous maintenant et de faire ce travail, de nous faire prendre conscience de ta présence, qu'on puisse l'approprier dans la prière, dans la louange, comme dans la fraction du pain. Qu'on puisse réformer notre regard et voir tous les domaines de notre vie avec cette conscience que tu es là et d'avoir cette révélation comme Gédéon, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que tu es là, que tu ne nous as pas abandonnés, mais qu'en plus, tu nous amènes quelque part. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos forces physiques, fais-nous du bien, et que cette paix qui surpasse toute intelligence, cet enjeu de cette paix en nous, puisse prendre encore plus de place dans notre vie, Seigneur. Qu'on n'ait pas peur de ce qui nous attend, mais qu'on se dise, même s'il y a l'ennemi devant nous, ben oui, l'Éternel est la paix. On veut le proclamer, l'Éternel est la paix dans nos vies. Amen.